Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Professeur Drago, bonjour. Chers amis auditeurs et auditrices, bonjour. Nous allons aborder aujourd'hui le deuxième volet de notre saga sur les autorités administratives indépendantes, à travers en particulier l'étude de leur pouvoir réglementaire et de leur régime de responsabilité. Je rappelle que dans notre précédente émission, nous avions plutôt dressé le portrait robot de ces autorités administratives indépendantes et leurs problématiques juridiques générales. Aujourd'hui, plus particulièrement, la question de la régulation, la compétence réglementaire de ces autorités, de leur régime de responsabilité qui accompagne les pouvoirs très importants, dont certaines d'entre elles, pas toutes, nous le verrons, sont dotées. Enfin, j'annonce quand même qu'il y aura une troisième et dernière émission sur cette question des autorités administratives indépendantes et, comment ne pas le faire, elle traitera de la question de l'Europe et des autorités et de la régulation de façon plus globale. Professeur, tout d'abord, je vais vous demander de nous présenter votre invité parce qu'aujourd'hui, notre émission se fait à trois voix. Donc, je vais vous passer tout de suite la parole.
Je vous remercie. Comme je l'avais dit la fois précédente, la première séance, comme vous l'avez rappelé, la première séance concernait les caractères généraux, la naissance des autorités administratives indépendantes, leur développement, les problèmes juridiques qu'ils posaient. Mais ce qui est intéressant pour la réunion d'aujourd'hui, c'est que nous allons pouvoir, in vivo, étudier une de ces autorités avec tous ses caractères. Et par chance, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Lemoine de Forge, qui est présidente de l'ACNUSA, c'est-à-dire l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. Et par conséquent, nous allons pouvoir, avec ce qu'elle nous dira et les questions que nous lui poserons, aborder certains problèmes que vous avez indiqués, mais d'autres également qui peuvent apparaître à cette occasion. Et je crois qu'il faut tout de suite lui donner la parole.
Madame Lemoine de Forge, bonjour. ACNUSA, dites-nous en plus.
Je vous remercie. Alors, ACNUSA, ce n'est pas effectivement un sigle très joli, mais c'est donc l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. Et la particularité de cette autorité, c'est que ça a été la première dans le domaine de l'environnement. Elle a été créée donc par la loi du 12 juillet 1999 et elle fait suite à un engagement gouvernemental du ministre des Transports de l'époque, de M. Guesso, au moment de la création du doublé nord à Roissy. Les riverains étaient quand même extrêmement inquiets du développement de cette plateforme et pour les calmer, on leur a promis de créer une autorité indépendante dans la mesure où cette autorité pourrait être en quelque sorte l'intermédiaire entre la Direction générale de l'aviation civile, dans laquelle les riverains avaient plus ou moins confiance, et les riverains, c'est-à-dire servir vraiment de garant de l'impartialité, de la neutralité, par exemple, des mesures de bruit. Alors, cette autorité faisait suite à différentes... Dès le rapport d'Oufiac de 96, on avait parlé de maîtriser les nuisances sonores. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est la loi de 1992 relative au bruit qui avait commencé à parler des nuisances sonores et qui avait prévu donc la création de plans d'exposition au bruit, ça c'est 85, les plans de gêne sonore de 94. Alors, cette autorité, est-ce que vous voulez que je vous donne tout de suite...
Ses missions, son profil,
oui, son profil.
Puis vous-même, votre qualité.
Voilà, alors on va peut-être commencer par les membres, effectivement. Alors, cette autorité est donc composée actuellement de 8 membres, donc, dont le président. Le président est le seul qui est à temps plein. Les autres membres sont nommés pour 6 ans, ne sont pas révocables, ne peuvent pas avoir de mandat électif, ni toute activité en relation avec le domaine aéronautique. Et ils sont nommés en fonction de leur spécialité. Plus exactement, il y en a 2 qui sont nommés, un par le président de l'Assemblée nationale, un par le président du Sénat. Et puis les 5 autres sont nommés par le ministère soit de l'aviation civile, chargé de l'aviation civile, soit le ministère de l'Environnement. Mais maintenant, c'est un seul ministère pour les prochains renouvellements, puisque c'est le fameux MEDAD. Et puis, il y a tout de même un qui est nommé par le ministre de la Santé, puisque ce qui compte, c'est les spécialités de l'acoustique, de la gêne sonore, de l'aéronautique, de la navigation aérienne. humaine et de la santé humaine. Donc, ces membres sont nommés pour 6 ans et ils sont renouvelables par moitié tous les 3 ans. Donc, le président est à temps plein. C'est le premier président était un ancien député. Et je suis donc le deuxième président de cette autorité, qui n'est pas bien vieille. Et moi, j'ai plutôt une formation de juriste, puisque je suis docteur d'État en droit public.
Et vous avez été magistrat.
Et j'étais effectivement vice-président du tribunal administratif de Versailles. Et je suis très contente de pouvoir mettre à profit mon expérience juridique, parce que, nous le verrons, il y a du contentieux contre les sanctions prononcées par l'autorité. Les missions, il y a des missions générales et des missions particulières. Il y a des missions générales sur l'ensemble des aéroports français, mais je précise tout de suite, les aéroports militaires, l'aviation militaire n'en fait pas partie, et c'est essentiellement l'aviation commerciale. Ce ne sont pas ce qu'on appelle l'aviation légère ou l'aviation d'affaires. Et donc, ces missions générales, c'est surtout d'émettre des recommandations sur toutes les questions relatives à la mesure du bruit et à la définition d'un indicateurs de mesure. Et ça, c'est très important parce que justement, c'est là que l'autorité a pu vraiment montrer, a pu jouer un rôle vraiment utile, parce qu'il y avait tout à faire et que, bon, maintenant, au bout de 6 ans, c'est à peu près fait, les indicateurs sont faits. Mais, par exemple, c'est l'autorité qui a été à l'origine du changement de quelque chose d'un peu barbare, de l'indice psophique en indice L2N, etc. Il y a donc eu un énorme travail en général, sur l'ensemble des plateforme du territoire. Et puis, elle peut également donc saisir l'autorité administrative compétente de tout manquement aux règles fixées pour la protection de l'environnement sonore. Et ça, c'est les fameuses sanctions administratives dont on pourra peut-être parler. Et puis, on se fait communiquer, évidemment, tous les renseignements. Et puis ça, ce sont les compétences générales. Mais l'autorité a des compétences plus particulières sur 10 aéroports, les 10 plus grands aéroports, c'est-à-dire ceux qui sont définis de la façon suivante. Ce sont les aéroports sur lesquels il y a plus de 20 000 mouvements d'avions de plus de 20 tonnes. Vous les connaissez, évidemment, les aéroports parisiens. C'est Nice, c'est Lyon. D'ailleurs, je donne dans l'ordre, puisque effectivement, c'est parisien, Nice, Lyon, c'est Marseille. Et puis ensuite, il y a Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Balmulhouse, Nantes. Voilà. Et ces aéroports, donc là, il y a des pouvoirs de définition des prescriptions applicables aux stations de mesure de bruit. L'autorité s'occupe de la diffusion de ces informations auprès des riverains, ça c'est un point extrêmement important, et elle vérifie que les aéroports font bien de la diffusion d'informations. Et puis, elle est obligatoirement consultée sur les fameux plans de gêne sonore, c'est-à-dire ces plans qui servent à définir les habitations et les logements qui sont éligibles à l'aide, à l'insonorisation. Et elle est également consultée sur les plans d'exposition au bruit qui définissent les zones qui ne seront pas constructibles dans le futur au fur et à mesure d'évolution de la navigation aérienne. Et puis, enfin, qu'on contrôle le respect des engagements. Voilà à peu près les missions de l'autorité.
Professeur ?
Oui, je crois que c'est intéressant. Ah oui, mais justement, nous allons le replacer dans un ensemble, parce que je crois que l'examen d'une autorité administrative indépendante spéciale nous montre quels sont les problèmes qui sont posés, quels sont les pouvoirs dont on dispose et quel est le domaine de contrôle qui est exercé. Nous avons voulu auparavant, mais ça n'avait pas passé par ce procédé, entendre M. Delvoye, médiateur de la République. Il a fait une conférence dans le cadre de cette recherche que nous faisons à l'Académie des sciences morales. Et là aussi, ça nous a permis de voir ce qu'était une autorité administrative qui, par hasard, n'est composée que d'une seule personne, ce qui est encore une particularité. Quand on l'a créée, on ne connaissait pas, en France en tout cas pas beaucoup, les autorités administratives indépendantes, mais une fois qu'elles se sont développées, on l'a en quelque sorte inclus dans cet ensemble. Mais là, nous avons un exemple qui est très concret, très important, très intéressant, et je crois que c'est une manière justement d'avoir une étude précise, approfondie sur cette question. Bien entendu, c'est un problème général. Actuellement, il devient, dans tous les pays du monde, un problème majeur, et on se demande si ça ne va pas un jour ou l'autre atteindre jusqu'aux structures de l'État, en considérant que les États seront finalement, pourraient être, mais c'est une vision qui est ridicule, un ensemble d'autorités administratives indépendantes au fur et à mesure qu'elles sont remplies. Actuellement, d'après le travail qui a été fait au Sénat il y a 2 ans, il y en avait à cette époque 63, je pense qu'il doit y en avoir quand même actuellement plus ou moins 70, et je lisais justement à l'heure actuelle le numéro de mars du journal du Sénat qui nous dit qu'on vient de créer le Haut Conseil de biotechnologie. Et par conséquent, voilà encore une autorité administrative qui est en train de naître. D'ailleurs, c'est une initiative qui a été prise par le Sénat, un cadre juridique pour les OGM. Donc vous voyez qu'il y a là un phénomène qui est en train de se développer. Il est hors de question de dire si c'est bien ou mal. C'est un problème qui n'a pas à se poser, en tout cas pas à ce stade-là. Mais ça permet d'intervenir dans un système administratif très classique comme le système français, qui avait ses caractéristiques propres et qui voit aujourd'hui survenir un certain nombre d'institutions qui sont mal connues. Et là, celle-ci, dont vous venez de décrire les caractères principaux, suppose qu'on puisse vous poser beaucoup de questions. Je pense qu'on peut vous poser beaucoup de questions justement à ce sujet. La première concernant la composition, mais nous en avons déjà parlé précédemment.
Du principe d'indépendance, ça peut être justement le premier
oui,
volet.
Oui, ça peut être un problème. Nous allons y venir clairement. Par ce biais. Le principe d'indépendance est évidemment le principe même qui est en question, car si ces autorités étaient intégrées dans un système ministériel, à ce moment-là, il ne s'agirait que de services. Mais là, justement, on a voulu, étant donné leur caractère et les principes d'indépendance qui sont formulés, on a voulu aboutir à une instance complètement indépendante. Vous savez que j'ai beaucoup étudié la question de la Haute Autorité de Santé, et là aussi, nous avons vu que les problèmes de désignation des membres est un problème qui est extrêmement complexe et qui n'est pas résolu toujours de façon parfaite. Alors là, il y a une question, vous savez que j'avais déjà la poser, il y a des parlementaires, il y a 2 parlementaires, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, il y a d'autres...
Ce ne sont pas des parlementaires.
Ah, bien.
Ils sont nommés par le président de l'Assemblée et par le président Sénat.
C'est tout à fait intéressant.
Oui, ce ne sont pas des parlementaires. Les 2 membres actuels, celui qui a été nommé par le président de l'Assemblée nationale est un ancien préfet, membre de l'inspection générale de l'administration qui vient de prendre sa retraite. Et puis le président du Sénat a nommé un ancien sénateur, maire d'une grande ville, plutôt à mon avis en sa qualité de médecin, bien que ses études de médecine soient lointaines. Je ne sais pas du tout qui est à l'origine de la volonté de qu'il y ait désignation par un président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, mais ce ne sont pas des parlementaires, et ça me paraît extrêmement important.
Oh, mais parfaitement, vous avez raison, je ne m'en étais pas rendu compte, et je crois que c'est une chose que j'apprends grâce à vous. Parce que dans d'autres institutions autonomes, il y a une représentation qui est au contraire présentée de façon abstraite, en disant un membre de l'Assemblée, ou deux, ou etc., n'est-ce pas? Et par conséquent, on est là dans une situation très différente. Qu'on donne le pouvoir à un membre du pouvoir législatif, ça peut se comprendre, mais si ça n'est pas un membre de l'Assemblée, ce moment-là, on retombe plutôt dans une sorte de droit commun.
Tout à fait.
N'empêche le problème de
personnalité qualifié, qui... Alors, je vois, le préfet nous apporte beaucoup, parce qu'il a un œil un petit peu... Les autres sont plus spécialisés en acoustique,
et
en navigation aérienne, etc.
C'est évident.
Mais, ou alors, peut-être, était-ce aussi pour que... Justement, puisqu'en principe, on va en reparler, il y a quand même, théoriquement, un contrôle du Parlement sur ces autorités. Peut-être que c'était aussi dans cette optique que cette nomination était prévue.
Alors, le contrôle du Parlement sur ces autorités, justement, juste un mot par rapport à ses membres. Vous le disiez, professeur, viennent d'être créées de nouvelles autorités administratives indépendantes. Il y a quelques mois aussi, le contrôleur général des lieux de privation de liberté vient s'ajouter aux 4 préexistantes en matière judiciaire, HALD, médiateur et autres. Alors, c'est très drôle de remarquer qu'à chaque fois, on a l'affirmation du principe d'indépendance qui est vraiment au fondement des créations juridiques de ces autorités, en précisant par ailleurs que cela ne préjuge rien de la compétence et de l'exercice du contrôle juridictionnel qui peut être conduit sur ces autorités. Donc il y a cette volonté de poser le principe d'indépendance, alors que théoriquement l'article 20 de la Constitution précise quand même que le gouvernement dispose de l'administration. Donc on a là quand même les limites d'une disposition constitutionnelle, avec les ministres qui finalement perdent, peut-être parce qu'ils ne sont pas suffisamment indépendants,
dépendant alors leurs compétences finalement sur cette administration. Et on a aussi des propositions qui émergent, des nouvelles autorités en création. Je pense en particulier à la Haute Autorité de l'Expertise qui va sans doute naître prochainement, là, à la fin du premier trimestre 2008, dans laquelle on a réintégré, on est en train de réintégrer en tout cas, le fait que le Parlement, cette fois-ci, validerait la procédure de nomination par une majorité des 3/5. Ça, c'est nouveau quand même.
Oui, mais en tout cas, il y a une règle qui, même si elle n'a pas été formulée de façon absolue, il a toujours été appliqué, c'est qu'une autorité administrative indépendante ne peut être créée que par la loi.
Tout à fait.
Et il n'est pas, il n'est pas du tout possible de les créer par voie administrative, alors qu'après tout, ce sont par certains côtés des services de l'administration, mais justement, leur indépendance est consacrée non seulement par cette volonté de les faire créer par le législateur, mais également avec un certain nombre d'autres caractéristiques. Alors, il y a un autre caractère dont on pourrait parler, qui est le problème de la personnalité juridique des autorités administratives indépendantes. Les premières qui ont été créées sont devenues des personnalités juridiques avec des caractéristiques propres et même très appliquées, mais elles ne le sont pas toutes. Je ne sais pas quel est le chiffre sur une soixantaine.
Je crois qu'il y en a 4 ou 5 seulement qui sont...
Peut-être un peu plus, mais à peine.
4, oui, il y en a 4.
Hein, c'est
oui,
ça, tout à fait. Et on les appelle autorités publiques indépendantes.
Ou alors, haute autorité. La haute autorité,
voilà.
La HALDE dont on parle beaucoup, est-ce qu'elle a la personnalité juridique?
Non, pas du tout.
Non, absolument pas.
Elle ne l'a pas. En fait, la personnalité juridique n'est pas toujours indispensable parce que, par exemple, le Conseil de la concurrence a, du fait de la loi, la possibilité quand même de faire des pourvois. Parce que la difficulté, quand vous n'avez pas la personnalité juridique, c'est que, par exemple, si la CNUSA souhaitait faire un recours, comme elle, parfois, elle est saisie par des amers ou des associations de riverains, on la saisit, on lui dit, voilà, il y a des permis de construire qui vont être délivrés dans des zones de plan d'exposition au bruit, des zones par exemple C, où normalement la construction est limitée, il ne faut pas qu'il y ait augmentation de la population et c'est certains types de constructions qui sont prévus. Et l'autorité est complètement désarmée puisqu'elle ne peut pas d'elle-même éventuellement attaquer ce permis de construire. Elle ne peut que faire remonter à la préfecture, demander si le préfet veut bien exercer son contrôle de légalité. On a un exemple en ce sens où effectivement la préfecture a exercé son contrôle de légalité et en référé a fait suspendre puis ensuite annuler le permis de construire litigieux. Donc la personnalité juridique, nous en fait on l'a demandé plusieurs fois et à chaque fois on nous a dit que le Parlement n'était pas très chaud maintenant, qu'il est de limite de plus en plus l'octroi de la personnalité, mais qu'en fait, on n'en aurait pas forcément besoin, mais que la loi pourrait éventuellement prévoir qu'on ait la possibilité d'ester en justice, finalement.
Ah voilà, parce que la personnalité juridique, elle implique la possibilité d'ester en justice,
et
mais elle implique
choses,
aussi une autonomie financière
exactement.
Une autonomie économique qui donne plus d'indépendance, voilà. Qui renforce l'indépendance.
Alors, l'autonomie financière, on l'a tout de même, dans la mesure... Enfin, on l'a tout de même. Notre budget n'est pas élevé, c'est 1 million d'euros. On est une petite autorité, il faut bien voir. Bon, mais on a une autonomie dans la mesure où tout ce qui est dépenses, il n'y a pas de visa du contrôleur financier. Hein. Je suis ordonnateur. Bon, pour les recettes, c'est pas tout à fait pareil, surtout que maintenant vous avez un système qui s'appelle le système Accor, qui est un système informatique qui valide toutes les dépenses et toutes les recettes et qui ne permet pas peut-être la même souplesse. Donc je pense qu'on a une autonomie financière, simplement on ne l'a pas dans la mesure où on n'a pas de ressources propres. On dépend du vote du budget et des lois de finances.
Le Conseil de la concurrence n'a pas de ressources propres.
Il n'y a que les assurances.
Oui,
la CAM qui a des ressources propres.
La question de la reconnaissance de la personnalité morale aussi, et au-delà du principe d'indépendance, ça serait aussi de pouvoir reconnaître une responsabilité de l'autorité. Puisque jusqu'à maintenant, il y a quand même cette contradiction, en tout cas pour les juristes, de rappeler l'indépendance de ces autorités administratives, mais qui néanmoins, lorsqu'elles agissent au nom de l'État, pour le compte de l'État.
Tout à fait.
Et on a d'ailleurs des décisions du Conseil d'État sur la commission de contrôle des banques qui reconnaît qu'une faute lourde commise par l'autorité engage néanmoins la responsabilité de l'État.
Alors
est-ce que la reconnaissance de la personnalité morale...
Cet avis du Conseil d'État de novembre 2006, n'est-ce pas ?
Oui.
Le Conseil d'État, dans cet avis, un avis de la section des finances de 2006, dit que ou bien l'autorité est responsable elle-même si elle a la personnalité juridique, et ou bien c'est le ministre, parce que dans ce cas-là, l'autorité est intégrée quand même dans système ministériel. Et par conséquent, mais en même temps, et cet avis a reconnu la responsabilité. C'est la première fois. Oui. Je ne sais pas s'il y a des arrêts qui ont déjà condamné des autorités indépendantes. À ma connaissance, on le saurait.
Celui sur la commission de contrôle des banques, il y en a un pour Footlord. Oui. En 1960, c'est très ancien.
Ah oui, bien sûr.
Mais entre les deux, non.
Effectivement, nous agissons, l'autorité agit au nom de l'État quand elle défend des contentieux devant le Conseil d'État et que, par exemple, il y a des condamnations aux frais de justice, enfin aux frais irrépétibles, c'est l'État qui est condamné, c'est pas l'autorité.
Ah oui. Alors, il y a une question que je voudrais vous poser, qui est secondaire, mais enfin, il y a un personnel administratif.
Tout à fait.
Il est de quelle importance? Qu'est-ce que ça peut représenter dans ce cas-là?
C'est 8 personnes.
Oui.
Donc, il y a un secrétaire général et puis un pôle technique, chargé de communication, une secrétaire, une gestionnaire et puis une chargée des amendes, si je puis dire, qui ne fait que ça, parce que c'est un domaine qui a pris, une mission de la CNUSA qui a pris énormément d'ampleur. Et c'est du personnel qui est soit par détachement, c'est le cas du président, de la secrétaire générale et de la gestionnaire. Et les autres sont des contractuels qui sont recrutés par contrat de droit public. Et ce personnel, donc, il travaille essentiellement en pôle technique. Si, il y a un point important que j'oubliais de signaler, c'est que chaque année, nous faisons un rapport, établissons un rapport.
La question du rapport d'activité.
Voilà, et actuellement, nous sommes en plein dedans, nous sommes en pleine relecture du rapport qui sort le 15 avril.
Mais alors, ces personnels techniques, c'est les plus importants dans la mesure où ils ont la possibilité de tout observer, de faire des enquêtes, d'avoir des instruments pour tout cela.
Oui.
Est-ce qu'ils ont recours à des organismes intermédiaires ou directement?
Alors, on travaille assez souvent avec des bureaux d'études pour faire des campagnes de mesure de bruit, par exemple.
Oui.
Bien que nous disposions d'un sonomètre dernier cri, donc qui peut servir ponctuellement, mais on fait faire des campagnes de mesure. Et aussi, par exemple, quand des associations de riverains nous font signe, nous expliquent qu'elles ne sont pas d'accord sur les mesures que leur donne la Direction Générale de l'Aviation Civile, ça nous permet de faire des contrôles. C'est notre rôle, c'est de contrôler ce que fait l'aviation civile. Mais on s'appuie aussi beaucoup sur les études de l'aviation civile. On n'a pas les moyens financiers, malheureusement, avec un budget d'1 million d'euros dont les 2/3 sont consacrés au personnel. Il nous reste à peu près 350 000 euros de frais de fonctionnement. C'est quand même pas beaucoup pour les tâches que nous avons.
Alors justement, dans ce cas-là, justement, toujours pour rester dans ce domaine, il est dit à un certain moment que certaines de vos décisions doivent être approuvées par la Commission nationale de prévention des nuisances. Qu'est-ce que c'est?
Alors,
est-ce que c'est aussi une autorité administrative indépendante?
Pas du tout.
Et par conséquent, là, on va tomber sur justement un problème important, c'est bien ce qui me semblait.
C'est un problème très important. La Commission nationale de prévention des nuisances est une commission tripartite composée des professionnels de l'aéronautique, des associations, enfin des représentants professionnels de l'aéronautique, représentants des associations de riverains et de l'État. Et cette commission préexistait à la création de l'autorité. Et cette commission avait pour objet de faire des propositions de sanctions au ministre chargé de l'aviation civile contre les compagnies qui ne respectaient pas les règles environnementales. C'est assez ancien déjà, des années 90. Bon, bien avant la création de l'autorité. Et ce qui s'est passé, c'est que quand la loi de 99 a été votée, l'autorité a été mise en quelque sorte en boucle dans le système, et c'est-à-dire qu'on a remplacé le ministre par l'autorité. Donc on a un système tout à fait étrange, dont Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement sur l'arrêt Corsair, avait relevé que c'était quand même très très curieux. On a deux commissions, la CNPN et l'autorité, mais la CNPN ne joue, si je puis dire, que pour les sanctions. Autrement, elle n'intervient pas du tout dans le système de mesures, etc. C'est uniquement pour les amendes administratives.
Elle doit les approuver?
Les compagnies aériennes, il y a un procès-verbal de manquement, par exemple, au fait que n'ont pas respecté ce qu'on appelle un volume de protection environnementale, c'est-à-dire un certain volume dans lequel l'avion doit passer quand il décolle. Bon, donc il y a un manquement qui est relevé à l'encontre de la compagnie. Ce manquement, ce procès-verbal arrive à l'autorité. L'autorité l'envoie à la CNPN. Le système est très compliqué, j'espère qu'il va enfin changer. Ensuite, la CNPN donc instruit le dossier convoque la compagnie devant elle. La compagnie est auditionnée par les membres de la commission. La CNPN fait une proposition de sanction et transmet cette proposition de sanction à l'autorité qui, dans une réunion plénière de ses membres, prend la décision finale. C'est-à-dire que la décision finale, la décision juridique, la décision qui est susceptible de recours contentieux, c'est la décision de l'autorité et non pas la décision de la CNPN. Et l'arrêt Corsair, dont on a beaucoup parlé...
31 janvier 2007,
a relevé tout à fait à juste titre, parce que l'autorité l'avait dit depuis un certain temps, que la proposition de la CNPN aurait dû être transmise également à la compagnie pour respecter le principe des droits de la défense. Or, depuis le début, la CNPN envoyait la proposition de sanction à l'autorité, mais ne l'envoyait pas à la compagnie. Si bien qu'évidemment, alors qu'on avait demandé de 2003 ce que la CNPN le fasse, ça ne se faisait pas. Donc, bien évidemment, le Conseil d'État s'en est emparé, a soulevé le moyen et a annulé donc les décisions Corsair en question. Et donc, à partir de cet arrêt Corsair, l'autorité s'est lancée dans une grande réflexion sur le système en disant qu'effectivement ce système ne pouvait pas durer et donc est à l'origine d'un projet de loi, enfin, qui pour l'instant n'est pas encore en tant que tel, mais est en préparation, en gestation, un projet de loi qui réforme complètement ce système en supprimant la Commission nationale de prévention des nuisances et en faisant en sorte que l'autorité n'est à la fois instruise, bien sûr, auditionne la compagnie et prennent la décision finale. Mais ce n'est pas facile à mettre en place parce que cette commission est très appréciée des riverains et il y a déjà beaucoup d'associations de riverains qui se sont un peu inquiètes à l'idée qu'elles ne pourront plus donner leur mot et les professionnels de l'aéronautique aussi. Donc, on est en train de bâtir un système, mais je ne sais pas s'il aura l'aval du Conseil d'État, où on associerait juste pour l'audition des compagnies, ce qu'on appellerait des membres associés, professionnels aéronautiques, anaéronautiques, associations de riverains, et ils pourraient donc, comme par le passé, entendre les compagnies, donner leurs observations, faire des propositions, mais ils ne prendraient pas la décision finale de sanction.
Oui, je ne pensais pas que ça allait aussi dans ce sens-là, très complexe.
C'est très complexe.
Et d'ailleurs, qui fait des plaintes devant vous? On vous les adresse directement, oui. Mais il est probable que ça peut passer aussi par des directions d'aérodrome ou par...
Oui, tout à fait. Hein, c'est, en fait, dans la plupart du cas, ça ne vient pas directement. Les riverains nous saisissent éventuellement en disant « je ne comprends pas, j'ai vu tel avion », etc. Mais ce n'est pas le manquement en tant que tel. Après, on peut faire des recherches.
Oui, donc,
ce sont les différentes directions d'aviation civile sur les 10 aéroports. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux dont je vous ai parlé parce qu'il y a par exemple Beauvais en plus et il n'y a pas... Marseille jusqu'à présent n'avait pas d'arrêté de restriction. Bon, c'est les aéroports sur lesquels il y a des arrêtés de restriction pour les avions. Eh bien, les directions locales relèvent les manquements et nous les envoient. Et alors en plus, le circuit actuellement est très long, si bien que parfois même, il peut facilement s'écouler presque 18 mois entre le moment où le manquement est relevé et le manquement au moment où il est sanctionné. Or, nous avons un délai de prescription de deux ans. Et il n'est pas rare qu'on soit obligé de constater qu'il y a prescription parce qu'il y a eu trop de retard entre le relevé du manquement, l'établissement du procès-verbal, la saisine de la commission, la tenue de la commission et enfin la saisine de l'autorité. Le système est affreusement compliqué.
D'autant plus qu'il doit y avoir une conjonction avec les problèmes pénaux, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des actes, mais il y a des actes qui peuvent relever...
Non, c'est pas pénal.
Jamais, à aucun...
Ce que je vous propose, madame et professeur, c'est que nous fassions une courte pause, parce que là, nous abordons justement les questions très importantes aussi. On touche déjà au contrôle juridictionnel, à la notion de responsabilité. Donc, on va faire une courte pause pour nos auditeurs et on se retrouve tout de suite.
Jean d'Ormesson sur Canal Académie, immortel depuis le 18 octobre 1973, date de son élection à l'Académie française, Jean d'O, comme l'appellent familièrement ses lecteurs, n'a pas attendu cette date pour devenir un écrivain célèbre. Retrouvez Jean d'Ormesson sur Canal Académie avec Elisabeth Antebi dans notre émission En habit vert.
Deuxième partie de notre émission, donc avec pour invité aujourd'hui à titre principal Madame Lemoine de Forges, présidente d'une autorité administrative indépendante, la première d'ailleurs en matière environnementale, la CNUSA. Et vous étiez justement pendant la pause en train de nous dire au professeur Drago et à moi-même que vous étiez une originalité mondiale. Alors on va peut-être quand même le dire.
Effectivement, nous sommes les seuls. Ça n'existe pas dans d'autres pays. Je pense qu'ils ont trouvé d'autres systèmes de résolution des conflits et de médiation. Seuls les Wallons ont essayé de faire une petite autorité, mais ils n'ont jusqu'à présent toujours pas le pouvoir de sanction, qui est quand même un des points importants de l'autorité. Mais on avait même envisagé, enfin il avait été même envisagé, il y avait eu lors d'un colloque évoqué la possibilité d'une autorité de ce genre au niveau européen. Puisqu'on est quand même dans un cadre de plus en plus européen.
Pouvoir de sanction, justement, nous en parlions juste avant notre pause. Professeur, on peut,
oui.
On peut y revenir
crois, parce que je voudrais partir de plus loin.
C'est intensité variable, là,
faire
aussi.
Un tableau général des fonctions qui sont possédées par les autorités administratives indépendantes. Elles ont des fonctions générales, je pense que vous les avez aussi. Avis et propositions, ça, ce sont des fonctions qui n'ont pas d'effet juridique direct, ou alors il faudrait déborder la question. Ensuite, la possibilité de prendre des décisions individuelles, non sanctionnatrices, et puis surtout des décisions générales. Ça, vous allez me dire si vous en avez, vous m'avez dit que vous n'en aviez pas, mais nous allons voir comment la chose. Et puis enfin, dernier aspect, les sanctions. Autrement dit, les autorités administratives indépendantes, je l'ai dit dans l'article que je vous ai communiqué, au fond, on passe par les trois aspects de l'État, n'est-ce pas ? Il y a un pouvoir législatif, un pouvoir juridictionnel et un pouvoir exécutif. Par conséquent, on pourrait jouer là-dessus, bien entendu. C'est une image simplement. Alors justement, en ce qui concerne les pouvoirs, avis et propositions, bien entendu.
Oui, puisque nous sommes saisis obligatoirement sur certains textes. Et d'ailleurs, obligatoirement, dès qu'un texte intéresse, touche au domaine de la CNUSA, nous sommes saisis pour avis. Mais nous n'avons pas de pouvoir de régulation, nous n'avons pas de pouvoir réglementaire. On a un pouvoir de sanction, donc c'est avis et sanction.
Avis et sanction, oui. Et des décisions individuelles non sanctionnatrices, en prenez-vous ?
Des
injonctions, par exemple ?
Non.
Non ?
Non.
Autrement dit, si vous estimez que vous devez arrêter tel ou tel abus qui est commis dans ce domaine, vous êtes obligé de passer par qui ?
Par le ministre.
Par le ministre.
Oui.
Par le ministre.
Oui.
Donc il y a une proposition, une demande faite au ministre.
Voilà.
Est-ce que c'est inscrit dans les textes ou est-ce que ça relève simplement d'une pratique
qui
est normale ?
C'est la pratique normale, mais je ne pense pas jusqu'à présent que le problème se soit posé. Dès que quelque chose nous paraît curieux, on signale beaucoup. En fait, on a beaucoup de relations avec l'aviation civile directement pour faire remonter un certain nombre de choses, mais on n'a pas aucun pouvoir décisionnel sauf celui des sanctions.
Alors c'est la question que je voulais vous poser. Ces relations avec l'administration de l'aviation civile, c'est des relations qui sont permanentes, constantes et normales, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas double emploi ou est-ce que on ne peut pas craindre des
effectivement,
effets de ce genre.
Les riverains pourraient s'étonner, mais je pense que depuis plus de 6 ans, ils se sont rendus compte que l'autorité avait joué un grand rôle par sa présence et qu'avait fait évoluer la Direction générale de l'aviation civile, qui était quand même effectivement considérée comme très régalienne et pas spécialement protectrice de l'environnement. Il y a eu beaucoup, une grande évolution, puisque par exemple, l'autorité a demandé à la Direction générale de l'aviation civile de mettre au programme des modules d'environnement dans la formation des contrôleurs, dans la formation des pilotes. C'est un dialogue permanent avec l'aviation civile. Là, par exemple, jeudi prochain, nous faisons ce qu'on appelle une réunion de groupe de suivi avec les élus et les associations de la région parisienne, les 3 aéroports, Orly, Roissy, Le Bourget. Et on va préparer cette réunion avec l'aviation civile demain. L'aviation civile sera là. Et au sein de l'aviation civile, il y a une mission environnement maintenant, ce qui est quand même un grand progrès, si vous voulez. On est obligé de travailler avec eux et ça se passe très bien. Mais ça ne nous empêche pas, et ce que je vous disais tout à l'heure à propos du rapport, ça ne nous empêche pas, dans le rapport d'activité, de dire ce que nous avons à dire, c'est-à-dire de donner en quelque sorte des bons et des mauvais points, éventuellement, à certaines directions de l'aviation civile, puisqu'il y a plusieurs directions.
Mais en utilisant les instruments dont vous disposez vous-même. Je veux dire, je ne parle pas d'instruments juridiques, je parle d'instruments scientifiques pour...
On n'a pratiquement pas tellement... Enfin, si, par les campagnes de mesure qu'on peut faire éventuellement. Oui. Et puis même l'aviation civile d'elle-même s'est mise sur ce terrain, puisque maintenant, il y a un système qui s'appelle Vitrail, qui permet de voir en temps différé, pour des raisons de sécurité, de voir les trajectoires des avions. Et toutes les communes de la région parisienne qui ont souhaité pouvoir en disposer peuvent avoir cet instrument dans leur commune. Et ça permet aux riverains et aux associations de vérifier que l'avion a bien respecté sa trajectoire, etc. Donc ça, c'est l'aviation civile et Aéroports de Paris, parce qu'il ne faut pas oublier le rôle
de Paris.
Ont mis ce système en place.
Vous avez évoqué votre rapport d'activité. Quelle portée a justement en France ce type de document ?
À qui est-il envoyé ?
Quel contrôle le Parlement exerce éventuellement ? On sait qu'aux États-Unis, il y a un véritable contrôle qui peut être émis par le Congrès sur les rapports.
Moi, je regrette qu'il ne soit pas, qu'il n'ait pas une aussi grande portée que je souhaiterais. Il est présenté ce qu'on appelle la lettre d'envoi, c'est-à-dire la première page du rapport, est adressée au président de la République, au président du Sénat, présent dans l'Assemblée nationale et au Premier ministre. Donc, ils en sont destinataires. C'est dans la loi. C'est un minima. Bon, et par ailleurs, nous l'envoyons... Alors, l'an dernier, compte tenu des élections, c'était un petit peu différent. Mais là, nous allons l'envoyer à tous les parlementaires, tous les députés et tous les sénateurs. Ils vont avoir le rapport.
Et il est publié dans quelques procédés.
Il est sur le site de l'autorité. Il est envoyé, bien entendu, à toutes les associations. Enfin, on le tire à plus de 2000 exemplaires. Hein. Donc, il est quand même envoyé et distribué très largement. Mais ce que je regrette, c'est que l'an dernier, dans la lettre d'envoi, on avait repris la recommandation du rapport Gélard, la recommandation 29, qui disait « L'Office recommande que les autorités administratives indépendantes soient entendues chaque année après publication de leur rapport annuel » par les commissions compétentes des deux assemblées. Nous avons tendu la perche, nous avons essayé de faire en sorte, et jusqu'à présent, aucune commission n'a souhaité nous entendre. Le seul moment où nous avons un contact avec les parlementaires, avec l'Assemblée nationale plus exactement, c'est au moment de la préparation du projet de loi de finances annuelle, parce qu'à la commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale, avec son rapporteur spécialisé qui est Charles de Courson, souhaite chaque année nous entendre, me demande de venir pour discuter du budget et quelles sont les perspectives de l'autorité, comment ça se présente, où en a-t-on des sanctions, éventuellement l'élargissement des compétences. Enfin, il s'intéresse spécifiquement.
Très bien.
Mais on n'a pas, et on va revenir à la charge cette année, on aimerait bien être auditionné en tant que tel
évidemment.
Par les parlementaires.
Il faudrait qu'un texte l'impose, n'est-ce pas ? Et alors maintenant, revenons, comme ça on aura tout vu. Au problème des sanctions, de leur nature juridique, du contrôle et des domaines.
Les sanctions, donc les décisions prises par l'autorité en matière de sanctions, puisque ce sont des amendes que nous prononçons...
Uniquement
des amendes qui peuvent aller jusqu'à 20 000 euros par compagnie, enfin par vol plus exactement, la moyenne étant plutôt autour de 10 000 euros. Enfin, il faut distinguer ce qu'on appelle les sanctions, les manquements en créneau horaire, c'est-à-dire que quand une compagnie, par exemple à Orly, le problème ne se pose pas, vous savez qu'il y a un couvre-feu de nuit. Bon. Mais Roissy, vous pouvez décoller entre 0h et 5h si vous avez ce qu'on appelle un créneau de nuit, si vous avez un créneau de 3h du matin, etc. Mais si vous n'avez pas de créneau de nuit, vous êtes obligé de décoller ou d'arriver avant minuit. Or, pour des raisons X, diverses et variées, météo, grève, contrôle, passagers, etc., il arrive que des compagnies qui avaient un créneau, par exemple, à 23h, ne puissent décoller qu'à 0h30. Bon. Et évidemment, dans ces cas-là, elles sont sanctionnées d'une amende. Alors, ce ne sont pas les amendes les plus élevées. En revanche, quand c'est une déviation de trajectoire, c'est-à-dire que l'avion ne respecte pas, souvent de jour en plus, la trajectoire qui lui permet d'éviter des zones extrêmement urbanisées, là, l'amende peut monter facilement jusqu'à 15 000 euros. Donc, ces amendes sont prononcées par l'autorité. Il est fait mention des voies et délais de recours. Elles sont susceptibles de recours directement devant le Conseil d'État. et le Conseil d'État, ce n'est oui, puisque c'est considéré comme une
décision faisant grief.
Voilà, voilà. Et puis au niveau voilà national, un organisme collégial. Et donc les compagnies font des recours sur deux points, des problèmes de procédure, et puis sur l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait, et puis en essayant de faire des comparaisons entre leurs propres manquements ou les manquements de compagnies d'autres compagnies.
C'est essentiellement un contrôle restreint.
C'est un contrôle restreint. C'est un contrôle restreint avec la question quand même sur la procédure, là, le point qui a été donc à l'origine de l'arrêt Corsair du 31 janvier 2007, le respect du contradictoire et des procédures des droits de la défense.
C'est un contrôle restreint, vous voulez dire qu'on s'arrête à l'erreur manifeste d'appréciation, c'est-à-dire que le contrôle de la qualification n'intervient pas. C'est intéressant parce que ça résulte uniquement de la jurisprudence. Ça ne peut pas être dit dans un texte puisque l'erreur manifeste d'appréciation n'a jamais été non plus codifiée. Par conséquent, on est obligé. Alors, est-ce qu'il y a un document indiquant les infractions qui peuvent être commises et les sanctions? Comment le document est-il établi? Est-ce qu'il figure dans le texte général qui vous concerne, ou est-ce qu'il y a des textes...
La loi de 99 prévoit effectivement le système de sanctions, les amendes, et puis...
Et les infractions?
Les différents manquements, ce sont des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile, plateforme par plateforme, qui prévoit des restrictions d'usage de la plateforme. Alors, je vous ai parlé des créneaux horaires, je vous ai parlé des déviations de trajectoire, mais par exemple, des essais moteurs à certaines heures, l'utilisation de ce qu'on appelle les inverseurs de poussée. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Oui, enfin, je cite les plus importants. Donc, tout ceci, et c'est plateforme par plateforme. Donc, ça ne sera pas la même chose. Roissy, c'est ce qu'il y a de pire, si je puis dire, pour un pilote qui arrive à Roissy, parce qu'il y a un empilement d'arrêtés qui est assez, une vraie pyramide, qui est assez compliquée, surtout pour les pilotes étrangers. En revanche, Marseille va avoir son premier arrêté de restriction l'année prochaine. Nantes, il n'y en a pas depuis pas longtemps. Ça dépend.
Quelle est la base juridique des arrêtés pris par le ministre dans ce cas-là? Où est-elle? Elle ne figure pas dans votre loi, vous, bien entendu.
Je ne pense pas.
Est-ce qu'elle figure dans les textes généraux sur l'aviation civile?
Oui, c'est ça. C'est dans le code. Vous savez qu'il y a un énorme code de l'aviation civile.
Code général de l'aviation civile.
Exactement. Exactement.
Quelle relation internationale vous établissez, justement, éventuellement avec d'autres autorités ministérielles ou équivalentes à la vôtre, justement, pour faire connaître préalablement, anticiper éventuellement les contentieux avec les compagnies aériennes étrangères?
Alors, il y a ce qu'on appelle une documentation, ce qui est l'AIP. C'est une documentation internationale que tous les pilotes doivent avoir quand ils doivent préparer leur vol, si vous voulez. Bon. Et puis, alors, nous, je ne pense pas qu'on ait de relations. Enfin, l'aviation civile, oui, la Direction générale de l'aviation civile a des relations. C'est elle qui a. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'aller voir, l'an dernier aux États-Unis et en septembre en Espagne, on essaie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, comment le système de restriction est mis en place, comment il est sanctionné. On a été extrêmement frappés en Espagne de voir que c'était très, très rapide. L'infraction est relevée dans les 3 jours. Enfin, le système, visiblement, est plus performant que le nôtre.
Mais il est un système administratif.
Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une particularité en Espagne, c'est que l'AENA, l'entité juridique qui a une forme juridique d'établissement public, est à la fois gestionnaire de l'aéroport et navigation aérienne. Tandis qu'en France, ce sont deux choses séparées. Vous avez les gestionnaires d'aéroports d'une part, l'aéroport de Paris les aéroports de province. Et puis, vous avez la direction de l'aviation civile, la direction générale qui s'occupe de la navigation aérienne. Alors que là, en Espagne, c'est regroupé dans le même. Donc, ça leur permet d'être beaucoup plus performants, à mon avis, et d'avoir un système qui est meilleur.
Et vous avez la possibilité, vous avez des pouvoirs pour faire des analyses sur place, évidemment.
Oui, bien sûr.
Et
oui,
quand
oui.
vous avez des contacts avec l'extérieur, vous le faites de vous-même, car vous n'êtes pas... C'est une chose qui est très importante à souligner. Il n'y a pas de tutelle.
Absolument pas.
La notion de tutelle n'est pas connue.
Non. Nous nous déplaçons de nous-mêmes. Si nous décidons d'aller visiter demain Marseille, on y va. J'ai oublié de préciser que dans les missions de l'autorité, enfin, une mission qu'elle s'est attribuée au titre de la loi, c'est que chaque année, elle va sur les 10 plateformes qui sont de son ressort, ce qu'on appelle dans un jargon pas très joli les 10 plateformes acnusées. Elle va d'elle-même rencontrer les commissions locales de l'environnement qui sont installées auprès près de chaque aéroport et qui regroupe des riverains, des professionnels de l'aéronautique et des membres de l'administration pour aller à la rencontre des riverains et discuter avec eux. Et on se promène effectivement régulièrement. Nous sommes régulièrement saisis par les riverains de plaintes. Enfin, on essaie d'être... Moi, personnellement, je me sens très indépendante. Et je vous disais...
c'est la conception même du
système. Dans le rapport d'activité, nous n'hésitons pas à dire ce qui ne va pas.
La caractéristique principale, c'est ça qui est important, évidemment.
Vous avez évoqué le rôle en matière de protection de l'environnement. À deux ou trois reprises, vous avez même mentionné, je crois, l'existence d'une mission environnement
au sein de l'aviation civile. Oui.
Par rapport à la CNUSA, justement, les directives européennes sur la responsabilité environnementale sont en train d'être transposées. Il y a un projet de loi cadre en ce moment qui va sans doute être adopté à la fin du mois de mars 2008. Vous, en tant que président de la CNUSA, vous seriez favorable à une évolution, renforcement de vos pouvoirs, de vos sanctions, à une reconnaissance de votre personnalité morale juridique? Parce qu'on le voit actuellement avec la question de la dépénalisation du droit des affaires. Il y a, entre l'AMF actuellement et le procureur de la République de Paris, un contentieux, justement, pour savoir vers qui va revenir certaines sanctions, certains pouvoirs. Vous, vous êtes plutôt favorable à une extension, finalement, de vos pouvoirs pour l'avenir, parce que la protection de l'environnement et la question du bruit va...
Alors, c'est pas tellement le bruit, mais il y a actuellement un projet, mais il faut qu'il soit déposé au Parlement et voté. Mais je sais qu'effectivement, le secrétariat d'État aux transports souhaiterait que l'autorité dépasse le cadre des nuisances sonores pour s'occuper de toutes les nuisances sur et autour des aéroports, c'est-à-dire la pollution atmosphérique, d'une façon générale, l'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement. Et ça ne serait pas illogique, puisque les fameuses commissions locales d'environnement dont je viens de vous parler, elles ont toutes ces compétences.
Aucune autorité ne les a.
Voilà. Et donc, ce serait en ce sens-là que nos pouvoirs seraient élargis, ce qui va transformer quand même assez sensiblement la physionomie de l'autorité, parce que c'est une compétence sur lesquelles, pour l'instant, nous n'avons, si je puis dire, aucune compétence. Il faut alors tout apprendre.
Mais alors, ça pose un problème. Comment est-ce que la chose se faisait avant 1999, disons par exemple en 1990 ou 12, comment est-ce que toutes ces situations que vous présentez étaient résolues et éventuellement punies?
Alors, il y avait déjà, en ce qui concerne les amendes, si mes souvenirs sont bons, ça doit dater de 87, le système.
Et qui les a
infligés? C'était l'aviation, c'était le ministre. C'était le ministre de l'aviation civile sur proposition de cette fameuse CNPN. C'est-à-dire que la CNPN, déjà, avait le même système d'audition des compagnies, faisait des propositions de sanctions, et puis le ministre mettait sa signature, bien entendu, c'est tout. Et il n'allait pas plus loin.
C'est tout le contentieux ministre des Transports contre les compagnies.
Oui, mais bien sûr. Mais...
Voilà, et il était jugé parti.
Jugé parti, voilà.
Donc, c'était pas possible.
Ça pose un problème plus ample, qui est le problème du caractère de toutes les sanctions qui sont prises, non seulement chez vous, mais dans bien d'autres institutions, parce qu'elles ont un côté pénal malgré tout. Est-ce qu'il ne faut pas que la loi intervienne dans chaque cas? Évidemment, ça ne correspond qu'à la troisième catégorie, par conséquent, on n'a pas besoin de la loi tout le temps. Mais enfin, il y a un problème qui est très important.
C'est pour ça qu'à mon sens,
sanctions administratives.
C'est bien que l'autorité était, ce soit elle qui prononce ces sanctions administratives.
Oui, oui. C'est d'ailleurs lié, bien entendu.
Ne pouvait pas continuer comme ça.
Quel contrôle juridictionnel, alors, justement, professeur?
Dans ce cas-là, maintenant, c'est le contrôle administratif, puisque le juge administratif est juge de droit commun. C'est le Conseil d'État, puisqu'il y a des mesures de caractère général qui sont prises. Maintenant, on pourrait imaginer, mais alors là, vous voyez où ça nous mène, on pourrait imaginer le système qui a été mis en place à propos du Conseil de la concurrence ou à propos de l'AMC, c'est-à-dire le contrôle par la Cour d'appel de Paris, n'est-ce pas? Et il y a encore une troisième institution qui est relève de la Cour d'appel de Paris, laquelle est-ce? Ne cherchez pas si vous voulez, ça m'échappe actuellement, mais ça a été créé beaucoup plus récemment.
Oui, tout à fait, oui.
Alors là, en même temps, là, pour les affaires aussi bien concernant les affaires financières ou boursières et les affaires de concurrence, c'est la Cour d'appel de Paris, mais ce sont ces chambres civiles qui se prononcent dans ce cas-là. Or, là, il y a quand même toute une base pénale qui intervient malgré tout, et on se trouve en présence d'une situation qui est quand même assez bizarre. Est-ce que vous voyez comment, par exemple, aux États-Unis, la question est résolue? Est-ce qu'elle relève directement des tribunaux? On ne sait jamais.
Sur le délit environnemental aux États-Unis, alors il y avait effectivement directement des tribunaux. Tout à fait.
Voilà, mais en France
on va sans doute,
aussi,
en France aussi, le délit pénal environnemental, il arrive, oui, il de arrive, toute façon, oui. avec les fameuses class actions aussi, voilà, qui vont exactement. Sans doute permettre
un
recours plus ouvert. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Madame professeure, je vous remercie. J'invite nos auditeurs, bien évidemment, à se rendre sur le site internet de l'ACNUSA et à lire aussi le texte qui accompagnera cette émission sur le site de Canal Academy pour retrouver les nombreuses références citées. L'émission est téléchargeable. Merci et à très bientôt pour la dernière partie de notre volet. Au revoir.
Merci.